Le journal de George Fox 1666-1673 en Amérique et retour page 1 après ma libération, j'aurais voulu donner quelque chose au gouverneur pour la civilité et la bonté qu'il m'avait récemment témoigné. Mais il ne voulut rien recevoir, disant que tout le bien qu'il pourrait faire pour moi et mes amis, il le ferait et ne leur ferait jamais aucun mal. Et ensuite, si jamais le maire de la ville lui envoyait demander des soldats pour disperser les réunions des amis, s'il en envoyait, il leur donnait en secret l'ordre de ne pas intervenir. Et ainsi il demeura plein d'affection jusqu'au jour de sa mort. Les officiers aussi, et les soldats, furent grandement changés et devinrent très respectueux à mon égard. Quand ils avaient occasion de parler de moi, ils disaient « Il est raide comme un arbre et pur comme une cloche, car nous n'avons jamais pu le faire plier ». Le lendemain même de ma libération, l'incendie éclata à Londres, et la nouvelle en parvint vite jusque dans les campagnes. Alors je vis que le Seigneur Dieu était vrai et juste dans sa parole, qu'il m'avait montré auparavant dans la prison de Lancaster, lorsque je vis l'ange du Seigneur, une épée nue étincelante tournée vers le sud, comme je l'ai dit plus haut. Et les gens de Londres avaient été avertis à l'avance de cet incendie, pourtant peu le prirent à cœur ou y crurent, mais au contraire devinrent plus méchants et plus orgueilleux. Car peu avant l'incendie, un ami fut poussé à venir du Huntingdonshire, à répandre son argent dans les rues, à lâcher son cheval dans les rues, à dénouer les jarretières de sa culotte, à laisser tomber ses bas, à déboutonner son pourpoint, et à dire au peuple « Ainsi devrez-vous courir de ci de là, répandant votre argent et vos biens, à moitié dévêtus comme des fous, comme je suis pour vous un signe », et c'est ce qu'ils firent lorsque l'incendie éclata et que la ville brûlait. Ainsi le Seigneur a exercé ses prophètes et ses serviteurs par sa puissance, leur a montré des signes de ses jugements, puis les a envoyés avertir le peuple. Mais au lieu de se repentir, ils en ont battu certains et en ont cruellement maltraité d'autres, et certains, ils les ont emprisonnés, tant au jour de l'ancien pouvoir que depuis. Mais le Seigneur est juste, heureux ceux qui obéissent à sa parole. Certains ont été poussés à aller nus dans leur rue, au jour de l'autre pouvoir et depuis, comme signe de leur nudité, et ont déclaré parmi eux que Dieu les dépouillerait de leurs professions hypocrites et les rendrait aussi dénués et nus qu'ils l'étaient. Mais au lieu d'y réfléchir, ils les ont souvent fouettés ou autrement maltraités, et parfois emprisonnés. D'autres ont été poussés à se vêtir de sacs et à dénoncer les malheurs et la vengeance de Dieu contre l'orgueil et l'arrogance du peuple, mais peu y prirent garde. Et au jour de l'autre pouvoir, les prêtres méchants, envieux et de profession déposèrent plusieurs pétitions tant auprès d'Olivier Cromwell et de son successeur Richard, appelés les protecteurs, qu'auprès des parlements juges et magistrats contre nous, bourrés de mensonges, de paroles avilissantes et de calomnies. Mais nous en obtîmes des copies et avec l'aide du Seigneur, y répondîmes toutes, et nous lavâmes, nous et la vérité du Seigneur, de ces accusations. Mais hélas, quel corps de ténèbres s'éleva contre la vérité, en ceux-là même qui faisaient du mensonge leur refuge. Mais le Seigneur les balaya, dans et par sa puissance, vérité, lumière et vie, il entoura ses agneaux d'une clôture et les préserva comme sur des ailes d'aigle. C'est pourquoi nous avons tous eu et avons un grand encouragement à nous confier au Seigneur, que nous avons vu, par sa puissance et son esprit, renverser et réduire à néant toutes les confédérations et tous les conseils ourdis dans les ténèbres contre sa vérité et son peuple, et par cette même vérité, il donna à son peuple la domination, afin qu'en elle il puisse le servir. Tiré de Valiant for the Truth, le jour même qui suivit la sortie de George Fox de sa prison, la ville de Londres fut frappée par un autre fléau, à peine moins terrible que la peste redoutée. L'été avait été très chaud, et les maisons de Londres, la plupart construites en bois avec un remplissage de plâtre, étaient sèches et inflammables comme du bois de chauffage. Au milieu de la nuit, un incendie éclata près du London Bridge, dans la boutique d'un boulanger, où l'on avait entreposé une quantité de bois, et en quelques instants les flammes se propagèrent de maison en maison, déjouant toutes les tentatives pour en arrêter la progression. Pendant 3 jours, le démon du feu poursuivit sa course, dévorant les entrepôts les plus riches, les plus belles églises et les demeures de la noblesse, aussi bien que les humbles logis des pauvres. Quand enfin il cessa sa course folle, les 2/3 de cette cité populeuse n'étaient plus qu'une masse informe de cendres et de décombres. La scène est ainsi décrite par Evelyn dans son journal. Le ciel avait un aspect de feu, comme le haut d'un four ardent. La lueur se voyait à plus de 40 milles à la ronde pendant de nombreuses nuits. L'incendie était si général, et le peuple si stupéfait, que dès le début ils bougèrent à peine pour l'éteindre, si bien qu'on n'entendait ni ne voyait rien d'autre que des cris et des lamentations, et des gens courant de tous côtés comme des créatures égarées. Or, la veille de l'incendie, la foule affairée des rues de la ville avait été témoin d'un spectacle étrange. Un ami du Huntingdonshire les traversa, le pourpoint déboutonné, courant çà et là avec frénésie, jetant son argent et criant que les habitants de cette ville feraient de même dans quelques jours. Personne ne crut à sa prédiction, mais elle se vérifia pleinement au moment de l'incendie. Et en effet, je ne pouvais manquer de remarquer comment la main du Seigneur se tourna contre ceux de mes persécuteurs qui avaient été la cause de mon emprisonnement, ou qui s'étaient montrés injurieux ou cruels envers moi pendant celui-ci. Car l'officier qui m'avait conduit à Rollcroll perdit son bien et s'enfuit bientôt en Irlande. Et la plupart des juges qui siégeaient au tribunal lors des assises où je fus envoyé en prison moururent peu après, tels le vieux Thomas Preston, Rawlinson, Porté, le colonel West et Matthew West de Borwick. La femme, le fils et la fille de Preston étaient morts. Et la femme du juge Fleming mourut, lui laissant 13 ou 14 enfants sans mère, lui qui avait emprisonné 2 amis jusqu'à la mort, rendant ainsi plusieurs enfants sans père. Le colonel Kirby ne prospéra jamais ensuite et enterra 3 femmes. Le grand connétable Richard Dodson mourut peu après, et Mount, le petit connétable, ainsi que la femme de John Ashburnham, l'autre petit connétable, qui m'avait invectivé dans sa maison, moururent peu après. William Kniep, le témoin qu'ils avaient produit contre moi, mourut peu après. Un T, le geôlier de Lancaster, qui s'était montré très méchant envers moi lorsque j'étais son prisonnier, fut retranché dans sa jeunesse. Le sous-shérif, qui me conduisit de la prison de Lancaster vers Scarborough, ne vécut pas longtemps après. Et un certain Joblin, geôlier de Durham, qui fut prisonnier avec moi au château de Scarborough, et qui avait souvent excité le gouverneur et les soldats contre moi, bien qu'il fût sorti de prison, le Seigneur le retrancha bientôt après dans sa méchanceté. Lorsque je revins dans ce pays, la plupart de ceux qui habitaient le Lancashire étaient morts, et d'autres ruinés dans leurs biens, de sorte que, bien que je n'eusse pas cherché à me venger de pour leurs actes contre moi, contraire à la loi, le Seigneur avait exécuté ses jugements sur beaucoup d'entre eux. Étant désormais libre, je parcourus environ 3 000 pour me rendre à une grande réunion générale dans la maison d'un ami, qui avait été grand connétable, et tout se passa paisiblement et bien. Le 4e jour suivant, je retournai à Scarborough et tins une réunion en ville, chez Peter Hodson. À cette réunion vint une personne appelée une dame, et plusieurs autres personnages de haut rang, ainsi qu'un jeune homme, fil du bailli de la ville, qui avait été convaincu pendant que j'étais en prison. Cette dame ainsi appelée vint à moi et me dit « J'ai parlé contre les ministres ». Je lui dis, ce contre qui les prophètes et le Christ se sont déclarés autrefois, je me déclare contre eux aujourd'hui. De là, j'allai à Whitby, et après y avoir rendu visite aux amis, je passai à Burlington, où je tins une autre réunion. De là, j'allai à Oram, où je tins encore une autre réunion, et de là chez Marmaduke's Store, où nous eûmes une grande réunion dans la maison d'un connétable, sur qui le Seigneur avait accompli un grand miracle. Comme, le lendemain, 2 amis devaient se prendre en mariage, il y eut une très grande réunion à laquelle j'assistai. Je fus poussé à exposer l'état de nos mariages, déclarant comment le peuple de Dieu se prenait l'un l'autre dans les assemblées des anciens, et que c'était Dieu qui unissait l'homme et la femme avant la chute. Et bien que les hommes aient pris sur eux d'unir dans la chute, pourtant, dans la restauration, c'est l'union par Dieu qui est le mariage juste et honorable, et jamais un prêtre n'a marié qui que ce soit, que nous lisions dans les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Puis, je leur montrai le devoir du mari et de la femme, comment ils doivent servir Dieu, étant ensemble héritiers de la vie et de la grâce. Après la réunion, je partis de là pour aller chez Grace Barwick, où j'eus une réunion générale très grande. J'allai ensuite chez Richard Shipton, où j'eus une autre réunion, puis chez un prêtre, dont la femme était convaincue, et le prêtre était devenu très affectueux et se réjouissait de me voir. C'était ce prêtre-là qui, en l'année 1651, avait menacé, s'il me rencontrait jamais encore, il me tuerait, ou bien je devrais le tuer, et il avait dit qu'il deviendrait fou si je n'étais pas réduit à néant dans le mois, mais à présent il était partiellement convaincu et était devenu très aimable. Je quittai sa maison en direction de la mer, où plusieurs amis vinrent me visiter, entre autres Philip Scarfe qui avait autrefois été prêtre, mais qui, ayant reçu la vérité, était maintenant devenu un prédicateur du Christ gratuitement, et le demeura. En continuant, je m'arrêtai pour rendre visite à un homme très âgé, convaincu de la vérité et qui avait plus de 100 ans. Puis j'allai dans la maison d'un ami, où j'eus une grande réunion, paisible. J'eus aussi une grande réunion près de Malton, et une autre grande près de Rull, d'où j'allai à Rolldendike. Comme nous entrions dans la ville, les veilleurs interrogèrent ceux qui étaient avec moi et moi-même, mais comme ils n'avaient aucun mandat pour nous retenir, nous passâmes, et furieux, ils menacèrent de nous retrouver et de nous fouiller. J'allai chez celle qu'on appelait Lady Montag, où je logeai cette nuit-là, et plusieurs amis vinrent me visiter. Le lendemain matin, levé de bonne heure, j'allai marcher dans le verger et je vis, vers le lever du soleil, un homme entrer dans la maison, enveloppé d'un grand manteau. Il ne resta pas longtemps, il ressortit bientôt et s'en alla sans m'avoir vu. Je sentis quelque chose s'en prendre à ma vie, J'entrai dans la maison, où je trouvai la servante effrayée et tremblante. Elle me dit, « Cet homme avait sous son manteau une rapière nue. » Je compris ainsi qu'il était venu avec l'intention de me faire du mal, mais le Seigneur l'en empêcha. Je visitai ensuite les amis jusqu'à ce que j'arrive à York, où nous eûmes une grande réunion. Après cela, j'allai rendre visite au juge Robinson, un ancien juge de paix, qui avait été très affectueux envers moi et les amis depuis le commencement. Il y avait avec lui un prêtre qui me dit, « On dit de nous que nous n'aimons personne que nous-mêmes. » Je lui répondis, « Nous aimions tout le genre humain, comme étant la création de Dieu, et comme étant des enfants d'Adam et Ève par génération, et nous aimions la fraternité dans le Saint-Esprit. » Cela le réduisit au silence. Après quelques autres discussions, nous nous séparâmes en bons termes et nous nous éloignâmes. Vers ce temps-là, j'écrivis un livre intitulé « Craignez Dieu et honorez le roi », dans lequel je montrais que nul ne pouvait à bon droit craindre Dieu et honorer le roi, sinon ceux qui se détournaient du péché et du mal. Ce livre impressionna les soldats et la plupart des gens. Après avoir visité les amis à York, nous allâmes dans une ville de marché, où nous eûmes une réunion chez George Watkinson, qui avait autrefois été juge. Ce fut une réunion glorieuse et bénie, elle était très grande, la semence de vie étant placée au-dessus de tout. Nous n'aurions pas pu entrer dans cette ville si la Providence ne nous avait ouvert la voie, car les veilleurs se tenaient prêts à nous arrêter, mais un homme chevauchait juste devant nous, et les veilleurs l'interrogèrent d'abord. Voyant que c'était un juge, ils le laissèrent passer, et nous échappâmes à l'arrêt en chevauchant tout près de lui et en passant avec lui. De là nous allâmes chez Thomas Taylor, autrefois capitaine, où nous eûmes une précieuse réunion. Près de chez Thomas Taylor vivait un homme appelé Chevalier, qui avait été très mécontent d'apprendre que j'allais être libéré, et avait menacé, si le roi me rendait la liberté, il me renverrait en prison le lendemain. Mais bien que j'eusse cette réunion si près de lui, la puissance du Seigneur l'empêcha d'intervenir, et notre réunion fut paisible. Le colonel Kirby aussi, qui avait été le principal instrument de mon emprisonnement au château de Lancaster et de Scarborough, ayant appris que j'avais été remis en liberté, obtint un nouvel ordre pour me faire arrêter et dit « Il chevaucherait 40 000 pour me prendre et donnerait 40 livres pour qu'on m'arrête. » Pourtant, peu après, je m'approchai si près de lui et tins une réunion à moins de 2 000 de chez lui, et alors il fut frappé de gouttes et alité, de sorte qu'on crut qu'il allait mourir. De chez Thomas Taylor, je visitai les amis jusqu'à ce que j'arrive à Cinderhill Green, où j'eus une grande réunion générale. Quand le prêtre du lieu l'apprit, il envoya le connétable demander un mandat au juge, et ils poussèrent leurs chevaux si fort qu'ils faillirent les ruiner. Mais comme ils avaient été prévenus tard et avaient un long chemin à faire, la réunion était terminée avant leur arrivée. Je n'entendis parler de qu'au moment où je quittais la maison, la réunion étant finie, et alors un ami vint me dire, « Ils fouillent une autre maison pour te trouver, celle même où tu vas maintenant. » Comme je marchais dans les allées pour m'y rendre, je rencontrai les connétables, les gardiens et le greffier du juge. Je passai au milieu d'eux tandis qu'ils me regardaient, et j'allai à la maison qu'ils avaient fouillée. Ainsi ils manquèrent leur dessein, car la puissance du Seigneur les lia, et me préserva au-dessus d'eux, et les amis se séparèrent et tous leur échappèrent. Les officiers s'en allèrent comme ils étaient venus, car le Seigneur Dieu avait frustré leur dessein, loué soit son nom à jamais. Après cela, j'allai dans le Derbyshire, où j'eus une grande réunion. Certains amis craignaient que le connétable ne vienne, car ils avaient subi de grandes persécutions dans ces contrées, mais notre réunion fut paisible. Un juge de paix de ce comté avait confisqué beaucoup de biens aux amis, alors Hélène Fretwell fit appel aux assises, et le reste des juges lui accorda la restitution de ses biens, et elle parla au juge persécuteur, lui disant qu'il ne devait pas recommencer. Comme elle était poussée à parler à ce juge et à l'avertir, il lui dit « Viens t'asseoir sur le banc. » « D'accord, dit-elle, si je puis te persuader de rendre justice au pays, je m'assiérai avec toi. » Il dit, « Non, alors tu ne quitteras pas le tribunal. » Comme elle s'en allait, elle fut poussée par le Seigneur à se retourner et à dire qu'elle devrait siéger en tant que juge, et lui non. Après la fin des assises, il se joignit à quelques-uns de ses compagnons persécuteurs et dit, « Ils obtiendraient encore des biens des Quakers si le diable ne suscitait pas cette femme pour les en empêcher. » Il rentra donc chez lui et emmena les bœufs du frère de cette femme, en peine pour avoir assisté aux réunions. Alors Susan Freese, une amie de Chesterfield, fut poussée par le Seigneur à lui dire, s'il continuait à persécuter les innocents, le Seigneur exécuterait ses plaies sur lui. Peu après ce juge, nommé Clark, devint fou et fut lié avec des cordes, mais il rongea les cordes en morceaux et faillit tuer sa servante, car il se jeta sur elle et la mordit, si bien qu'ils durent lui mettre un instrument de fer dans la bouche pour lui écarter les dents de la chair de la jeune femme, et ensuite il mourut fou. Ces faits me furent rapportés par Hélène Fretwell elle-même. je voyageai du Derbyshire vers le Nottinghamshire et tins une grande réunion à Skegby, de là j'allai à Mansfield, où j'eus aussi une réunion, puis à une autre ville, où je rencontrai beaucoup d'amis à une foire. Ensuite, traversant la forêt par un jour de tonnerre violent et de pluie, j'arrivai à Nottingham. La tempête fut si forte que beaucoup d'arbres furent arrachés par les racines et que certaines personnes furent tuées, mais le Seigneur nous préserva. Le premier jour suivant, j'eus une grande réunion à Nottingham très paisible. Les amis vinrent s'asseoir sous leur maître, la grâce de Dieu, qui leur apportait le salut, et furent établis sur le rocher et le fondement, Christ Jésus. Après la réunion, j'allai visiter l'ami qui avait été shérif et m'avait eu pour prisonnier vers 1649. De Nottingham, je passai dans le Leicestershire et arrivai à Saileby, où nous eûmes une grande réunion bénie. Après quoi j'allai à Leicester visiter les prisonniers, puis chez John Panfort, où nous eûmes une grande et précieuse réunion générale. De là je traversai le pays, visitant les amis et mes parents, jusqu'à ce que j'arrive à Warwick, et après avoir visité les prisonniers, je passai à Batglay, où j'eus une précieuse réunion. Je voyageai à travers le Northamptonshire, le Bedfordshire, le Buckinghamshire et l'Oxfordshire, visitant les amis dans chaque comté. Dans l'Oxfordshire, le diable m'avait tendu un piège, mais le Seigneur le brisa, sa puissance domina tout, sa vérité bénie se répandit, et les amis s'y multiplièrent. Ainsi, après avoir traversé de nombreux comtés, visitant les amis et tenant parmi eux beaucoup de grandes et précieuses réunions, j'arrivai à Londres. Mais j'étais si affaibli d'avoir été couché près de 3 ans dans des emprisonnements cruels et pénibles, mes articulations et mon corps étaient si raides et engourdis, que je pouvais à peine monter sur mon cheval, ou plier mes membres, ou supporter d'être près d'un feu, ou manger des aliments chauds, on m'en avait tenu éloigné si longtemps. Arrivé à Londres, je marchai un peu parmi les ruines du grand incendie et les observai attentivement. Je vis que la ville avait été réduite au même état que la parole du Seigneur m'avait montré lorsque, plusieurs années auparavant, elle était venue sur moi pour que je prophétise. Tiré de Valiant, For the Truth, lorsque George Fox fut libéré de son rigoureux emprisonnement au château de Scarborough, il trouva des signes de trouble dans l'église qu'il aimait tant. Après avoir assisté à quelques réunions, qu'il qualifie de « saison bénie », il se dirigea vers Londres et y arriva pour trouver la ville bondée en ruines, et les 2/3 de ses habitants sans abri, leurs demeures ayant été réduites en cendres. Lui-même était faible de corps, ses membres enflés par de cruelles épreuves. Ses premiers compagnons, les vaillants 60 qui étaient partis 2 par 2 prêcher l'Évangile, étaient soit morts, soit en prison, et les assemblées qu'ils avaient contribué à rassembler avaient été épurées par la persécution ou souffraient de dissensions internes. Il était évident, pour cet homme sage et lucide, qu'il fallait prendre une mesure permettant d'unir les différents rassemblements des amis en un tout harmonieux. Après être resté quelque temps à Londres et avoir visité des réunions dans la ville, je repartis à la campagne et tins de grandes réunions en chemin, à Kingston, Reading et dans le Wiltshire, jusqu'à ce que j'arrive à Bristol, où j'eus aussi de nombreuses grandes réunions. Thomas Lowe vint des Cornouailles pour me rencontrer, ainsi que des amis de plusieurs régions du royaume, car c'était alors le temps de la foire. Quand je fus libre de Bristol, j'allai chez Nathan Cripps et à travers le pays, je retournai à Londres tenant de grandes réunions en route, et elles furent toutes paisibles grâce au Seigneur. Ainsi, bien que je fusse très faible, je voyageai au service du Seigneur, qui me donna de traverser malgré ma faiblesse. Vers ce temps-là, certains qui s'étaient écartés de la vérité et s'étaient heurtés aux amis furent atteints par la puissance du Seigneur, qui vint merveilleusement sur eux et les fit, condamner et déchirer en morceaux leurs papiers de controverse. Nous eûmes plusieurs réunions avec eux, et la puissance éternelle du Seigneur fut sur tout, et plaça le jugement sur la tête de ceux qui s'étaient écartés. Dans ces réunions, qui duraient des journées entières, plusieurs qui s'étaient égarés avec John Perrault et d'autres revinrent, et condamnèrent cet esprit qui les conduisait à garder leur chapeau quand les amis priaient, et quand eux-mêmes priaient. Certains d'entre eux dirent, les amis étaient plus justes qu'eux, et que si les amis n'étaient pas demeurés fermes, eux se seraient éloignés et seraient tombés dans la perdition. Ainsi la puissance du Seigneur se manifesta merveilleusement et domina tout. Alors je fus poussé par le Seigneur à recommander l'établissement de 5 réunions mensuelles d'hommes et de femmes dans la ville de Londres, en plus des réunions des femmes et des réunions trimestrielles, afin de veiller à la gloire de Dieu et d'admonester et exhorter ceux qui marchaient dans le désordre ou la négligence, et non selon la vérité. Jusqu'alors, les amis n'avaient que des réunions trimestrielles, maintenant la vérité s'était répandue et les amis s'étaient multipliés. Je fus poussé à recommander l'établissement de réunions mensuelles dans tout le pays. Et le Seigneur m'ouvrit ce que je devais faire, et comment les réunions mensuelles et trimestrielles des hommes et des femmes devaient être ordonnées et établies en ce pays et dans d'autres nations, et que je devais écrire à ceux que je ne visitais pas pour qu'ils fassent de même. Ainsi, après que les choses furent bien établies à Londres et que la vérité, la puissance, la semence et la vie du Seigneur régnèrent et resplendirent surtout dans la ville, j'allai dans l'Essex. Après que les réunions mensuelles furent établies dans ce comté, j'allai dans le Suffolk et le Norfolk, Thomas Dry étant avec moi. Lorsque nous eûmes visité les amis de ces régions et que les réunions mensuelles y furent établies, nous allâmes dans le Huntingdonshire, où nous eûmes de très grandes et bénies réunions. Et bien que nous y rencontrassions une certaine opposition, la puissance du Seigneur domina tout, et les réunions mensuelles y furent aussi établies. Quand nous arrivâmes dans le Bedfordshire, nous eûmes une grande opposition, mais la puissance du Seigneur l'emporta sur tout. Ensuite, nous allâmes dans le Nottinghamshire, où nous eûmes beaucoup de précieuses réunions, et où les réunions mensuelles furent établies. Puis, entrant dans le Lincolnshire, nous eûmes une réunion de quelques amis, hommes représentant toutes les réunions du comté, dans la maison de l'ancien shérif de Lincoln, et tout fut paisible. Après cette réunion, nous franchîmes l'Attre pour retourner dans le Nottinghamshire, l'ancien shérif de Lincoln étant avec moi, et nous participâmes ensemble à certaines réunions de ce comté. Nos réunions furent glorieuses et paisibles, et nous eûmes beaucoup de précieuses réunions dans ce comté. À cette époque, William Smith était très faible et malade, et les connétables et d'autres avaient saisi tous ses biens, y compris le lit sur lequel il était couché, à cause de la vérité. Ces officiers menacèrent de venir disperser notre réunion, mais la puissance du Seigneur les enchaîna, de sorte qu'ils n'eurent pas le pouvoir d'intervenir, béni soit son nom. Après la réunion, j'allai rendre visite à William Smith, et les connétables et d'autres étaient là, surveillant son blé et ses bêtes afin d'empêcher qu'on n'en emporte aucune. De là, nous passâmes dans le Leicestershire et le Warwickshire, où nous eûmes de nombreuses réunions bénies. L'ordre de l'Évangile fut établi, et les réunions mensuelles des hommes furent instaurées dans tous ces comtés. Puis nous allâmes dans le Derbyshire, où nous eûmes plusieurs grandes et bénies réunions. En beaucoup d'endroits, les officiers nous menacèrent, mais par la puissance du Seigneur, nous échappâmes à leurs mains. Laissant les choses bien établies dans le Derbyshire, nous voyageâmes par-dessus les collines du pic où il faisait très froid, car il y avait alors gel et neige, et arrivâmes dans le Staffordshire. Chez Thomas Hammersley, nous eûmes une réunion générale des hommes, où les choses furent bien établies dans l'ordre de l'Évangile et où les réunions mensuelles furent instaurées. Mais j'étais si extrêmement faible que je pouvais à peine monter ou descendre de mon cheval. Toutefois, mon esprit étant ardemment engagé dans l'œuvre pour laquelle le Seigneur avait placé en moi une charge et m'avait envoyé, je poursuivis mon voyage malgré la faiblesse de mon corps. J'avais confiance que le Seigneur me ferait traverser, comme il le fit par sa puissance. Nous arrivâmes dans le Cheshire, où nous eûmes plusieurs réunions bénies et une réunion générale des hommes. Là, toutes les réunions mensuelles de ce comté furent établies, selon l'ordre de l'Évangile, dans et par la puissance de Dieu. Après la réunion, je quittai la région. Mais lorsque les juges apprirent l'existence de la réunion, ils furent très troublés de ne pas l'avoir dispersée et de ne pas m'avoir arrêté. C'est le Seigneur qui les en avait empêchés. Après m'être acquitté là de mon service pour le Seigneur, je passai dans le Lancashire, chez William Barne, près de Warrington, où se réunirent des représentants de la plupart des réunions de ce comté, et là aussi toutes les réunions mensuelles furent établies dans l'ordre de l'Évangile. De là, j'envoyai des écrits dans le Westmoreland par Leonard Fell et Robert Withers, ainsi que dans le Bishopric, le Cleveland, le Northumberland, le Cumberland et l'Écosse, pour exhorter les amis à établir les réunions mensuelles dans la puissance du Seigneur en ces lieux, ce qu'ils firent. Ainsi la puissance du Seigneur domina tout, et ses héritiers vinrent à l'hériter. Car l'autorité de nos réunions est la puissance de Dieu, l'Évangile, qui met en lumière la vie et l'immortalité, afin que tous voient au-dessus du diable qui les obscurcissait, afin que tous les héritiers de l'Évangile marchent selon l'Évangile et glorifient Dieu dans leurs corps, leurs âmes et leurs esprits, qui appartiennent au Seigneur, car l'ordre du glorieux Évangile n'est pas de l'homme ni par l'homme. À cette réunion dans le Lancashire, Margaret Fell, étant prisonnière, obtint la liberté de venir, et partit avec moi de là jusqu'à chez Jeanne Milne, dans le Cheshire, où nous nous séparâmes. Je passai dans le Shropshire, puis au pays de Galles, et j'eus une grande réunion générale des hommes chez Charles Lloyd, où certains opposants entrèrent, mais la puissance du Seigneur les abaissa. Tirée de Valiant for the Truth, Margaret Fell, l'honorable maîtresse de Swarthmoral, fut pendant toutes ces longues années enfermée entre les murs du château de Lancaster, dans un lieu qu'elle décrit ainsi. La tempête, le vent et la pluie y entrent aisément, et il est parfois rempli de fumée. Elle était enfermée dans la chambre des Quakers, où beaucoup de Quakers étaient emprisonnés. George Fox était dans une petite pièce du cachot, plus exposée aux intempéries et à la fumée. Privée d'une coopération active avec ses amis, elle trouva du réconfort dans l'usage de sa plume. Par sa position dans la société et son esprit fort et vigoureux, elle avait toujours exercé une influence déterminante dans le petit groupe parmi lequel elle avait jeté son sort, et par lequel elle était regardée comme une mère en Israël, et maintenant dans sa captivité, elle continua à veiller avec affection sur l'Église naissante, et des épîtres de conseils et d'exhortations trouvèrent leur chemin vers les différentes réunions des amis. Elle écrivit aussi plusieurs traités, et une lettre ardente et vigoureuse au roi, le reprenant pour sa violation de la déclaration de Breda et de la promesse qu'il lui avait faite que les amis ne seraient pas inquiétés s'il vivait paisiblement. Charles Yi, cependant, ne tint aucun compte de cet appel, et elle demeura en prison près de 2 ans de plus, lorsque les efforts persévérants de ses amis obtinrent sa libération en 1668, après un emprisonnement de 4 ans et demi. Elle ne resta pas longtemps dans sa confortable demeure, car très vite nous la retrouvons occupée à visiter toutes les prisons d'Angleterre où des amis étaient détenus. Par une triste expérience, elle avait appris les épreuves et les privations de ceux qui étaient incarcérés dans les lugubres geôles de ce temps-là et désirait ardemment réconforter les prisonniers. Et ayant aussi éprouvé la puissance soutenante du Seigneur, elle était bien préparée à être un ministre de consolation et apporta un rayon de lumière à maints êtres solitaires et affligés. Après avoir traversé le Denbighshire et le Montgomeryshire, nous passâmes dans le Merionethshire, où nous eûmes plusieurs réunions bénies, puis nous allâmes au bord de la mer, où nous eûmes une précieuse réunion. Nous quittâmes le pays de Galles, les réunions mensuelles y ayant été établies dans la puissance de Dieu, et retournâmes dans le Shropshire, où les amis de la campagne s'étant rassemblés, les réunions mensuelles y furent également établies. Arrivés dans le Worcestershire, après de nombreuses réunions parmi les amis de ce comté, nous eûmes une réunion générale des hommes chez Henry Gibb, à Pashur, où les réunions mensuelles furent aussi établies dans l'ordre de l'Évangile. Les assises se tenaient ce jour-là dans la ville, et certains amis craignaient que les juges n'envoient des officiers pour disperser notre réunion, mais la puissance du Seigneur les retint, de sorte que tout fut paisible, et par cette puissance nous eûmes la domination. J'eus plusieurs réunions parmi les amis de ce comté, jusqu'à ce que j'arrive à Worcester, et comme c'était le temps de la foire, nous eûmes une précieuse réunion. Le major Wilde se trouvait alors à Worcester, c'était un persécuteur des amis. Après avoir quitté la ville, quelques soldats du major posèrent des questions à mon sujet, mais ayant laissé les amis là-bas établis dans un bon ordre, nous passâmes à Droitwich, puis à Shrewsbury, où nous eûmes aussi une très précieuse réunion. Le maire, ayant appris que j'étais en ville, rassembla le reste des officiers pour délibérer sur ce qu'il fallait faire contre moi, car il disait « Le grand Quaker d'Angleterre est arrivé en ville ». Mais lorsqu'ils se réunirent, le Seigneur confondit leurs conseils, de sorte que certains voulaient m'emprisonner, mais d'autres s'y opposèrent, ainsi, divisés entre eux, j'échappai à leurs mains. Nous allâmes dans le Radnorshire, où nous eûmes beaucoup de précieuses réunions, et les réunions mensuelles y furent établies dans la puissance du Seigneur. En sortant de ce comté, nous nous arrêtâmes un peu dans une ville de marché. Le greffier d'un juge et quelques autres rustres s'entendirent pour nous attaquer sur la route. Ils nous suivirent donc hors de la ville et nous rattrapèrent bientôt, mais il y avait tant de gens du marché sur la route qu'ils furent quelque peu empêchés de faire ce qu'ils avaient l'intention de faire. Cependant, voyant deux de nos compagnons chevaucher à une certaine distance derrière, ils s'en prirent à eux, l'un attaqua un ami nommé Richard Moore, chirurgien de Shrewsbury. Pendant ce temps, un autre de ces rustres vint au galop derrière moi et l'autre ami qui m'accompagnait. Nous traversions un pont un peu trop étroit pour qu'il puisse nous dépasser. Ainsi, dans son empressement à passer devant nous, il s'engagea dans le ruisseau et s'enfonça dans un trou profond dans l'eau. Je vis son intention, je m'arrêtai et conseillai aux amis d'être patients et de ne leur donner aucun prétexte. À ce moment-là, Richard Moore et l'autre ami nous rejoignirent, ils connaissaient les agresseurs et leurs noms. Nous reprîmes ensuite notre route, et un peu plus loin nous rencontrâmes un autre homme, à pied, ivre d'alcool, une épée nue à la main, et non loin au-delà se trouvaient deux femmes et deux hommes, dont l'un avait le pouce coupé par cet homme ivre. L'ivrogne avait tenté une grossièreté envers l'une des femmes, et cet homme s'était opposé à lui et l'avait secouru, mais eut le pouce tranché. Le cheval de ce mauvais homme était détaché et le suivait d'assez loin derrière. Je poursuivis le cheval, l'attrapai et le ramenai à l'homme qui avait le pouce coupé. Je lui dis d'emmener le cheval au prochain juge de paix, ainsi on pourrait être informé de l'incident et poursuivre l'homme qui l'avait blessé. À cette occasion, j'écrivis une lettre au juge et au juge itinérant Judge Oversize qui se trouvait alors à proximité. J'employai quelques amis à la porter d'abord au juge. Le juge dont dépendait le greffier le réprimanda, ainsi que les autres, pour nous avoir maltraités sur la grande route, de sorte qu'ils furent bien contents de venir supplier les amis de ne pas comparaître contre eux à l'assise, ce qui, après leur soumission envers nous et leur reconnaissance de leur tort, fut accordé, en décidant de ne pas poursuivre. Ce pardon servit bien la cause des amis dans le pays, car il retint beaucoup de gens grossiers qui avaient été enclins à maltraiter les amis. Nous passâmes dans leur fortchir, où nous eûmes plusieurs réunions bénies. Nous eûmes aussi une réunion générale des hommes, où toutes les réunions mensuelles furent établies. Vers ce temps-là, il y eut une proclamation contre les réunions, et, comme nous traversions leur fortchir, on nous parla d'une grande réunion de presbytériens, qui s'étaient engagés à continuer de se réunir et à tout perdre plutôt que de cesser leur réunion. Quand ils apprirent cette proclamation, les gens vinrent, mais le prêtre était parti, les laissant désemparés. Alors ils se réunirent à Leominster en privé et préparèrent du pain, du fromage et à boire, prêts à les mettre en avant, afin que, si les officiers venaient, ils puissent ranger leur Bible et avoir l'air occupés à manger. Le bailli les découvrit, entra parmi eux et dit, « Leur pain et leur fromage ne les couvriraient pas, il aurait leurs orateurs. » Ils s'écrièrent, « Que deviendraient alors leurs femmes et leurs enfants ?» Mais il prit leurs orateurs et les garda quelque temps. Le bailli raconta cela à Peter Young et dit, « Ils étaient en vérité les pires hypocrites qui aient jamais fait profession de religion. Ils avaient le même plan trompeur en d'autres endroits, car il y avait à Londres un certain Pocock, qui avait épousé Abigail Darcy, qu'on appelait une dame, et comme elle était convaincue de la vérité, j'allai chez lui pour la voir. Ce Pocock avait été l'un des juges des prêtres, et, étant un presbytérien strict et envieux contre nous, il avait coutume d'appeler nos amis des rôdeurs de maison. Comme il était présent, elle me dit, « J'ai quelque chose à te dire contre mon mari. Non, dis-je, tu ne dois pas parler contre ton mari. Si, dit-elle, mais je le dois dans ce cas. Dimanche dernier, dit-elle, lui, ses prêtres et son peuple, les presbytériens se sont réunis, ils avaient des chandelles, des pipes à tabac, du pain, du fromage et de la viande froide sur la table, et ils s'étaient mis d'accord d'avance que si les officiers entraient sur eux, ils abandonneraient la prédication et la prière, et se mettraient à manger leur viande froide. Oh, lui dis-je, n'est-ce pas une honte pour vous, vous qui nous avez emprisonnés et saisi nos biens parce que nous ne voulions pas nous joindre à vous dans votre religion, et qui nous appeliez des rôdeurs de maison, et maintenant vous ne tenez même pas vous-mêmes à votre propre religion? Avez-vous jamais trouvé nos réunions remplies de pain et de fromage, et de pipes à tabac? Ou avez-vous jamais lu, dans les Écritures, une telle pratique parmi les saints? Eh bien, dit le vieil homme, nous devons être aussi prudents que des serpents. Je répondis, c'est bien là la prudence du serpent. Mais qui aurait pensé que vous, presbytériens et indépendants, qui avez persécuté et emprisonné les autres, saisi leurs biens et fouetté ceux qui ne voulaient pas suivre votre religion, vous reculeriez maintenant vous-même, n'osant pas vous en tenir à votre propre religion, mais la couvririez de pipes à tabac, de flacons de boissons, de viande froide, de pain et de fromage. J'appris ensuite que ces pratiques trompeuses et d'autres semblables étaient trop communes parmi eux en temps de persécution. Après avoir parcouru le Hertfordshire et y avoir bien établi les réunions, nous passâmes dans le Monmouthshire, où j'eus plusieurs réunions bénies, et chez Walter Jenkins, qui avait été juge de paix, nous eûmes une grande réunion, où certains furent convaincus, cette réunion fut paisible. Mais à une réunion avant celle-ci, le bailli du Hundred était venu presque ivre, prétendant qu'il devait arrêter les orateurs. Il y avait une grande puissance de Dieu dans la réunion, ainsi, bien qu'il fût en rage, elle le limita de sorte qu'il ne put disperser la réunion. Lorsqu'elle fut terminée, je restai un moment, et lui aussi resta. Au bout d'un certain temps, je lui parlai, puis je m'en allai paisiblement. La nuit, quelques gens grossiers vinrent et tirèrent un coup de mousquet contre la maison, mais ne blessèrent personne. Ainsi la puissance du Seigneur domina tout et enchaîna les esprits indisciplinés, de sorte que nous leur échappâmes. Nous arrivâmes cette nuit-là à Ross et eûmes une réunion chez James Merrick. Après cela, nous entrâmes dans le Gloucestershire et eûmes une réunion générale des hommes chez Nathaniel Cripp, où toutes les réunions mensuelles furent établies dans la puissance éternelle du Seigneur, et les héritiers du salut furent exhortés à prendre possession de leur héritage dans l'Évangile, la puissance de Dieu, qui était et est l'autorité de leur réunion. Nous eûmes bien des réunions bénies dans ce comté avant d'arriver à Bristol. Et après plusieurs temps puissants ensemble, les réunions des hommes et des femmes y furent aussi établies. Comme j'étais couché dans mon lit à Bristol, la parole du Seigneur me fut adressée, je devais retourner à Londres. Le lendemain matin, Alexander Pock et plusieurs autres vinrent me trouver. Je leur demandai ce qu'ils ressentaient. Ils me demandèrent ce qui pesait sur moi. Je leur dis que je sentais que je devais retourner à Londres. Ils dirent que c'était la même chose pour eux. Ainsi, nous consentîmes à retourner à Londres, car de quelque manière que le Seigneur nous mût et nous conduisît, là nous allions dans sa puissance. En quittant Bristol, nous passâmes dans le Wiltshire, et dans la puissance du Seigneur, nous y établîmes les réunions mensuelles des hommes, et nous visitâmes les amis jusqu'à notre arrivée à Londres. Après avoir visité les amis dans la cité, je fus poussé à les exhorter à porter tout leur mariage devant les réunions des hommes et des femmes, afin de les soumettre aux fidèles, afin qu'on prît soin d'empêcher de tels désordres que certains avaient commis. Car beaucoup s'étaient mariés contrairement à l'avis de leurs proches, et quelques jeunes gens, novices qui étaient venus parmi nous, s'étaient mêlés au monde. Des veuves aussi s'étaient remariées sans pourvoir à leurs enfants issus de leur premier mari, avant de se remarier. Pourtant, j'avais publié un écrit au sujet des mariages vers l'an 1653, lorsque la vérité était encore peu répandue, conseillant aux amis, qui pourraient être concernés en ce cas, qu'ils le soumettent en temps utile aux fidèles, avant que rien ne soit conclu, et qu'ensuite ils le publient à la fin d'une réunion, ou au marché, selon qu'ils seraient conduits à le faire. Et lorsque toutes choses seraient trouvées claires, étant libres à l'égard de tous autres, et leurs proches satisfaits, ils pourraient fixer une réunion pour le but de se prendre l'un l'autre en présence d'au moins 12 témoins fidèles. Tant ces directives n'étaient pas observées, et puisque la vérité était désormais plus répandue dans la nation, il fut ordonné par cette même puissance et cet Esprit de Dieu que les mariages seraient présentés aux réunions mensuelles et trimestrielles des hommes, ou selon l'établissement des réunions à leur en place, afin que les amis voient que les proches de ceux qui s'engageaient au mariage étaient satisfaits, que les parties étaient libres à l'égard de tous autres, et que les veuves avaient pourvu aux enfants de leur premier mari avant de se remarier. Par la suite, il fut ordonné dans la sagesse de Dieu que si l'un ou l'autre des parties ayant l'intention de se marier venait d'une autre nation, d'un autre comté ou d'une autre réunion mensuelle, il apporterait un certificat de la réunion mensuelle à laquelle il appartenait, pour satisfaire la réunion mensuelle devant laquelle il venait exposer son intention de mariage. Après que ces choses, avec beaucoup d'autres services pour Dieu, eurent été mises en ordre et établies dans les églises de la cité, je sortis de Londres, sous les conduites de la puissance du Seigneur, pour aller dans l'Hertfordshire. Après y avoir visité les amis, et une fois les réunions mensuelles des hommes établies, je tins une grande réunion à Baldock avec des gens de toutes sortes. Puis, en revenant vers Londres par Walsham, je conseillai d'y établir une école pour instruire les garçons, et aussi d'ouvrir à chaque louel une école de femmes pour instruire les filles et les jeunes demoiselles, en toutes choses civiles et utiles dans la création. Ainsi, après plusieurs précieuses réunions à la campagne, je revins à Londres, où je demeurai quelque temps dans l'œuvre et le service du Seigneur, puis j'allai dans le Buckinghamshire, où j'eus beaucoup de précieuses réunions. Chez John Brown, de Weston, près d'Aylesbury, quelques-uns des hommes amis de chaque réunion s'étant rassemblés, les réunions mensuelles des hommes pour ce comté furent établies, selon l'ordre de l'Évangile, dans la puissance de Dieu, ce qui l'affermit en tout ce qui le ressentait, lesquels en vinrent ainsi à voir et à sentir que la puissance de Dieu était l'autorité de leur réunion. J'allai ensuite chez Nathaniel Ball, à North Newton, près de Banbury, dans l'Oxfordshire, qui était un ami dans le ministère. Et puisque c'était une réunion générale, où étaient présents des représentants de toutes les réunions mensuelles pour ce comté furent établies dans la puissance de Dieu, et les amis en furent très heureux, car ils entraient ainsi dans leur service dans l'Église pour veiller à la gloire de Dieu. Réunion, nous traversâmes le comté en visitant les amis jusqu'à entrer dans le Gloucestershire, et en visitant aussi les amis à travers ce comté, nous arrivâmes dans le Monmouthshire chez Richard Hambury, où rencontrant des représentants de toutes les réunions de ce pays-là, les réunions mensuelles y furent établies dans la puissance du Seigneur, afin que tous y prennent soin de la gloire de Dieu, et admonestent et exhortent ce qui ne marchait pas comme il convenait à l'Évangile, ce qui fit une grande impression sur les environs, à Tay. Et en effet, ces réunions opérèrent une grande réforme parmi les gens, de sorte que les juges remarquèrent leur utilité et le service qu'elles rendaient. Richard Hambury et sa femme nous accompagnèrent pendant une journée de voyage, en visitant les amis, jusqu'à ce que nous arrivions chez une veuve, où nous passâmes la nuit. Le lendemain, nous partîmes et franchîmes les collines, visitant les amis et annonçant la vérité aux gens, jusqu'à ce que nous arrivions chez une autre veuve où nous eûmes une réunion. La femme ne parlait pas anglais, pourtant elle loua le Seigneur de nous avoir envoyé les visiter. Nous voyageâmes jusqu'à arriver à Swansea, où, le premier jour, nous eûmes une grande et précieuse réunion, la présence du Seigneur étant éminemment au milieu de nous. Le lendemain, nous eûmes, au-delà de Swansea, une réunion générale des hommes amis de Swansea, Tenby, Haverford West et d'autres lieux, et les réunions mensuelles furent établies selon l'ordre de l'Évangile et reçues par les amis dans la puissance du Seigneur, dont la vérité dominait sur tout. Pour traverser l'eau vers la Cornouaille, nous revînmes par Swansea jusqu'à Mumble, pensant y passer en bateau. Le maître du bateau avait promis de nous faire passer, mais il nous trompa, car à notre arrivée il refusa. Nous allâmes à un autre endroit où il y avait un bac, et nous avions nos chevaux sur le bateau lorsque des hommes grossiers, appelés gentilshommes, dans le bateau, menacèrent de tirer sur le maître s'il nous prenait. Le maître, effrayé par eux, fit descendre nos chevaux, ce qui détruisit notre espoir de passer par ce chemin-là. Par conséquent, faisant demi-tour dans la campagne, nous restâmes debout toute la nuit, et vers la deuxième heure du matin, nous montâmes à cheval et voyageâmes jusqu'à arriver près de Cardiff, où nous passâmes une nuit. Le lendemain, nous arrivâmes à Newport, et comme c'était jour de marché, plusieurs amis vinrent à nous, avec lesquels nous nous réunîmes, et après un beau temps de rafraîchissement ensemble, nous les quittâmes et poursuivîmes notre route. Au-delà de cette ville de marché, nous rattrapâmes un homme qui traînait sur le chemin, comme s'il attendait quelqu'un, mais lorsque nous l'eûmes rejoint, il chevaucha avec nous et nous posa beaucoup de questions. Enfin, rencontrant deux personnes qui semblaient être pages de quelque grand personnage, il fit connaissance avec eux, et je l'entendis leur dire qu'ils nous arrêteraient et nous feraient arrêter. Nous continuâmes à chevaucher, et lorsqu'il vint à nous et voulut nous arrêter, je lui dis « Nul ne doit nous arrêter sur la route du roi, car elle est aussi libre pour nous que pour eux », et je fus poussé à l'exhorter à craindre le Seigneur. Alors il s'élança au galop devant nous, et je vis que son intention était de nous arrêter à Shipton, au pays de Galles, une ville de garnison par laquelle nous devions passer. John Ap John était avec moi. Quand nous arrivâmes à Shipton, nous descendîmes la colline jusqu'à la ville, menant nos chevaux. Comme c'était jour de marché, plusieurs amis nous rencontrèrent et voulaient que nous restions dans une auberge. Mais nous ne devions entrer dans aucune auberge, aussi traversâmes-nous la ville directement, passâmes le pont, et nous fûmes alors hors des limites de cette ville. Ainsi, le bras et la puissance éternelle du Seigneur nous préservèrent et nous firent passer dans son œuvre et son service. Le premier jour suivant, nous eûmes une grande réunion dans la forêt de Dean, et tout se passa paisiblement. Le lendemain, nous traversâmes l'Overholdstone. Après y avoir visité les amis, nous revînmes chez William Yeoman, à Job's Court, dans le Somersetshire. De là, nous allâmes à une réunion à Posset, où plusieurs amis de Bristol vinrent à nous. Après cela, nous allâmes plus avant dans la campagne et eûmes plusieurs grandes réunions. La présence vivante du Seigneur était avec nous, nous soutenant et nous rafraîchissant dans notre travail et nos voyages en son service. Nous arrivâmes près de Minehead, où nous eûmes une réunion générale des hommes amis du Somersetshire. Il y vint aussi un voleur, que quelques personnes bien disposées voulaient que je laisse voyager avec moi. Je vis que c'était un voleur et leur dis de me l'amener, pour que je voie s'il pouvait me regarder en face. Certains étaient prêts à penser que j'étais trop dur avec lui, parce que je ne voulais pas le laisser voyager avec moi, mais quand ils me l'amenèrent, il ne put me regarder en face, mais regardait ici et là. Car il était bel et bien un voleur, qui, en feignant d'être ministre, avait volé l'habit d'un prêtre à un prêtre et s'en était allé avec. Après la réunion, nous passâmes à Minehead, où nous passâmes la nuit. Durant la nuit, j'eus un exercice au-dedans de moi, par le sentiment d'un esprit ténébreux qui travaillait et s'efforçait de s'élever pour troubler l'Église du Christ. Le lendemain matin, je fus poussé à écrire quelques lignes aux amis, pour les en avertir, comme suit. « Chers amis, vivez dans la puissance du Seigneur Dieu, dans sa semence qui est établie au-dessus de tout, et qui est au-dessus de toutes les épreuves que vous pourriez avoir de l'esprit ténébreux, lequel cherche à se servir de vous pour ses desseins et se force à entrer parmi vous, ce qui n'est pas encore arrivé. Dans la puissance du Seigneur Dieu, et de sa semence, tenez-vous au-dessus de lui, et amenez-le à la condamnation. Car j'ai senti une sorte d'esprit ténébreux se pousser vers vous et se soulever la nuit dernière, mais vous pouvez le maintenir abaissé par la puissance de Dieu, afin que le témoin se lève pour condamner ses agissements, dans la mesure où il a étendu ses œuvres de ténèbres avant d'avoir quelque admission. Ainsi rien de plus, sinon mon amour dans la semence de Dieu, qui ne change pas. » George Fox Minehead dans le Somersetshire, le 22 au jour du 4 mois, 1668. Le lendemain, plusieurs amis de Minehead nous accompagnèrent jusqu'à Barnstable et Apledon, dans le Devonshire, où nous eûmes une réunion. Barnstable avait été une ville sanguinaire et persécutrice. Il y avait deux hommes amis de cette ville, qui avaient été longtemps en mer, et revenant à la maison pour visiter leurs proches, l'un d'eux ayant femme et enfants, le maire de la ville les fit venir, sous prétexte de vouloir discuter avec eux. Il leur fit ensuite prêter les serments d'allégeance et de suprématie. Comme ils ne pouvaient jurer, il les envoya à la prison d'Exeter, où le juge Archer les mit en accusation et les y retint jusqu'à ce que l'un d'eux mourût en prison. Quand j'entendis cela, je fus poussé à écrire une lettre au juge Archer et une autre à ce maire de Barnstable, mettant leurs actions méchantes et non chrétiennes sur leur tête et leur faisant savoir que le sang de cet homme leur serait redemandé. Après une précieuse réunion à Pledon parmi quelques amis fidèles de là, nous passâmes à Stratton et demeurâmes dans une auberge toute la nuit. Le lendemain, nous chevauchâmes jusqu'à chez un Frey Lowe, où nous eûmes une très précieuse réunion, le jour suivant jusqu'à Truro, visitant ainsi les amis jusqu'à ce que nous arrivions au Land's End. Puis, en revenant par la partie sud de ce comté, nous visitâmes les amis jusqu'à Tregangeove, où chez Lovedale, nous eûmes une réunion générale pour tout le comté, dans laquelle les réunions mensuelles furent établies dans la puissance du Seigneur et dans le bienheureux ordre de l'Évangile. Afin que tous ceux qui étaient fidèles puissent admonester et exhorter ceux qui ne marchaient pas selon l'Évangile, que la maison de Dieu fût gardée que la justice coulât, et que toute injustice fût balayée. Plusieurs, qui s'étaient écartés de notre ordre évangélique, furent amenés à condamner ce qu'ils avaient fait comme étant mauvais, et par la repentance, se joignirent de nouveau à notre communion. Ayant terminé dans ce comté, nous arrivâmes dans le Devonshire et eûmes une réunion parmi les amis à Plymouth. En passant chez Richard Brown, nous arrivâmes chez la veuve Phillips, où nous eûmes ensemble quelques hommes amis de toutes les réunions. Et là, les réunions mensuelles des hommes furent établies dans l'ordre céleste de l'Évangile, dans la puissance de Dieu, ce qui répondait aux témoins de Dieu en tout. Il courait une grande rumeur qu'un détachement de cavalerie venait troubler notre réunion, mais la puissance du Seigneur l'en empêcha et nous préserva dans la paix et la sécurité. Après que les choses eurent été bien établies et la réunion terminée, nous arrivâmes à Kingsbridge et visitâmes les amis des environs. Laissant les amis de ces régions bien affermis dans la puissance de Dieu, nous passâmes à Topsham et Membury, visitant les amis et tenant beaucoup de réunions en chemin, jusqu'à ce que nous arrivions à Ilchester, dans le Somersetshire. Là, nous eûmes une réunion générale des hommes, et dans la réunion, nous établîmes les réunions mensuelles des hommes pour se compter dans la puissance éternelle du Seigneur, selon l'ordre de l'Évangile. Après que les réunions furent établies, et que les amis furent rafraîchis, consolés dans la puissance du Seigneur, et affermis sur Christ, leur rocher et fondement, nous passâmes à Pudimore, où, chez William Beatons, nous eûmes une réunion bénie et tout fut paisible, bien que les constables eussent menacé avant la réunion. Quand nous eûmes visité la plupart des réunions du Somersetshire, nous passâmes dans le Dorsetshire chez George Harry, où nous eûmes une grande réunion d'hommes. Là, toutes les réunions mensuelles des hommes de ce comté furent établies dans le glorieux ordre de l'Évangile, afin que tous, dans la puissance de Dieu, puissent chercher ce qui était perdu, ramener ce qui avait été chassé, chérir le bien et reprendre le mal. Puis, ayant visité les réunions des amis à travers le pays, nous arrivâmes à Southampton, où nous eûmes une grande réunion le premier jour. De là, nous allâmes chez le capitaine Reeves, où fut fixée la réunion générale des hommes pour le Hampshire, à laquelle vinrent des personnes de toutes les parties du comté, et nous eûmes une réunion bénie. Les réunions mensuelles des hommes pour ce comté furent établies selon l'ordre de l'Évangile, qui avait fait briller en eux la vie et l'immortalité. Une compagnie grossière de rentés vint, ils s'étaient opposés à nos réunions et les avaient troublés à maintes reprises. L'une des femmes avait couché avec un homme qu'il avait déclaré à la croix du marché, se glorifiant ainsi de sa méchanceté. Une bande de ces gens débauchés vivait ensemble dans une maison près du lieu de notre réunion. J'allai à la maison et leur parlai de leur méchanceté. L'homme de la maison demanda, « Pourquoi en faisais-je toute une affaire ?» À un autre dit, « C'était pour me faire trébucher. » Je leur dis, « Leur méchanceté ne me ferait pas trébucher, car j'étais au-dessus d'elles. » Et je fus poussé par le Seigneur à leur dire, « Les fléaux et les jugements de Dieu les atteindraient et viendraient sur eux. » Ensuite, ils allèrent de ci de là à travers le pays, jusqu'à ce qu'enfin ils fussent jetés dans la prison de Winchester, où l'homme qui avait couché avec la femme poignarda le geôlier, mais pas mortellement. Après leur libération, ce compagnon qui avait poignardé le geôlier se pendit. On rapporta aussi que la femme avait tranché la gorge d'un enfant. Ces gens avaient autrefois vécu près de Londres, et quand la ville fut brûlée, ils prophétisèrent que tout le reste de Londres serait brûlé dans les 14 jours et quittèrent vite la ville. Bien qu'ils fussent des rentés, grands opposants des amis et perturbateurs de nos réunions, certains seraient pourtant enclins à dire qu'ils étaient des Quakers dans la campagne où ils vivaient. Pour cette raison, je fus poussé par le Seigneur à écrire un écrit à diffuser parmi les magistrats et le peuple du Hampshire, afin de disculper les amis et la vérité d'eux et de leurs actions mauvaises. Après que les réunions mensuelles des hommes dans ces régions eurent été établies, et que la puissance bénie du Seigneur domina sur tout, nous allâmes dans une ville où nous eûmes une réunion avec les amis. De là, nous arrivâmes à Farnham, où nous rencontrâmes beaucoup d'amis, car c'était jour de marché. Nous eûmes de nombreuses précieuses réunions dans ce pays-là. Les amis de ces régions avaient autrefois été pillés par les magistrats, et une grande part de leurs biens avait été saisie à cause des dîmes et pour être allés aux réunions. Mais la puissance du Seigneur, en ce temps-là, préserva eux et nous de tomber entre les mains des persécuteurs. Nous eûmes une réunion générale des hommes dans la maison d'un ami dans le Surrey, qui avait été si extrêmement dépouillé qu'il ne lui restait presque plus une vache, un cheval ou un cochon. Les constables menacèrent de venir et de disperser notre réunion, mais le Seigneur les retint. À cette réunion, les réunions mensuelles des hommes furent établies sous l'autorité de la puissance céleste. Après avoir visité les amis de ce comté et tenu beaucoup de grandes et précieuses réunions, nous passâmes dans la maison d'un ami dans le Sussex, où devait se tenir la réunion générale des hommes amis de ce comté, et plusieurs de Londres vinrent là pour nous visiter. Nous eûmes une réunion bénie, et les réunions mensuelles des hommes pour ce comté furent alors établies dans la puissance éternelle du Seigneur, l'Évangile du salut, afin que tous s'en tiennent à l'ordre de l'Évangile. Il y avait alors beaucoup de menaces de troubles, mais la réunion fut paisible. Nous eûmes plusieurs grandes réunions dans ce comté, bien que les amis y fussent dans de grandes souffrances et que beaucoup fussent en prison. On me demanda de visiter un ami malade, et j'allai voir des amis qui étaient prisonniers. Il y avait danger que je sois appréhendé, mais j'y allai dans la foi de la puissance de Dieu, et ainsi le Seigneur me préserva en sûreté. Nous passâmes dans le Kent, où, après avoir assisté à plusieurs réunions, nous en eûmes une générale pour les hommes amis de ce comté. Là aussi, les réunions mensuelles des hommes pour ce comté furent établies dans la puissance de Dieu et affermies dans l'ordre de l'Évangile, afin que tous les héritiers de celui-ci entrent dans leur service et leur sollicitude dans l'Église pour la gloire de Dieu. Les amis se réjouirent de l'ordre de l'Évangile et furent heureux de l'établissement d'un ordre qui n'est pas de l'homme ni par l'homme. Après cela, je visitai les réunions dans le Kent, et lorsque je fus acquitté du service du Seigneur dans ce comté, je vins à Londres. Ainsi furent établies les réunions mensuelles des hommes à travers la nation, car j'avais été auparavant dans le Berkshire, où la plupart des anciens amis de ce comté étaient en prison, et lorsque je les eus informés du service des réunions mensuelles, elles furent établies parmi eux aussi. Les réunions trimestrielles avaient généralement été établies auparavant. J'écrivis aussi en Irlande, en Écosse, en Hollande, à la Barbade et en plusieurs régions d'Amérique, conseillant aux amis d'y établir leurs réunions mensuelles des hommes. Car ils avaient auparavant leur réunion trimestrielle générale, mais maintenant que la vérité avait augmenté parmi eux, ils devaient établir ces réunions mensuelles des hommes dans la puissance et l'Esprit de Dieu qui les avait d'abord convaincus. Et depuis que ces réunions ont été établies, tous les fidèles, héritiers de l'Évangile, se sont réunis dans la puissance de Dieu. Cette puissance est leur autorité pour accomplir le service du Seigneur en son sein. Bien des bouches se sont ouvertes en action de grâce et en louange, et beaucoup ont béni le Seigneur Dieu de m'avoir jamais envoyé dans ce service, oui, avec des larmes, beaucoup l'ont loué. Car tous en sont venus avoir un souci et un soin pour l'honneur et la gloire de Dieu, afin que son nom ne soit pas blasphémé lui qu'il professe, et a veillé à ce que tous qui professent la vérité marchent dans la vérité, dans la justice et la sainteté, ce qui cède à la maison de Dieu, et à ce que tous règlent leur conduite comme il convient, afin qu'ils voient le salut de Dieu, tous portant ce souci pour la gloire de Dieu, et étant exercés dans sa sainte puissance et son esprit, dans l'ordre de la vie céleste et de l'Évangile de Jésus. Ainsi la renommée et la louange éternelle du Seigneur sont établies dans le cœur de chacun qui est fidèle, de sorte que nous pouvons dire que l'ordre évangélique établi parmi nous n'est pas de l'homme, ni par l'homme, mais de et par Jésus-Christ, en est par le Saint-Esprit. Cet ordre de l'Évangile, qui vient de Christ, l'homme céleste, est au-dessus de tous les ordres des hommes dans la chute, qu'ils soient juifs, gentils ou chrétiens apostats, et il demeurera quand ils auront disparu. Car la puissance de Dieu, qui est l'Évangile éternel, était avant que le diable fût, et elle sera et demeurera pour toujours. Et comme l'Évangile éternel fut prêché au jour des apôtres à toutes les nations, afin que tous puissent entrer dans son ordre, par la puissance divine qui met en lumière la vie et l'immortalité, afin que ceux qui en sont héritiers puissent hériter de sa puissance et de son autorité, de même maintenant, puisque toutes les nations ont bu la coupe de la prostituée et que tout le monde a adoré la bête, sauf ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, qui ont adoré Dieu en esprit et en vérité, comme Christ. Cet évangile éternel tourmente la prostituée et fait enrager la prostituée et la bête, même la bête qui a pouvoir sur les langues qu'on appelle l'original, pour les ordonner, par lesquelles ils font des docteurs, comme ils les appellent. Mais tous ceux qui reçoivent l'évangile et la puissance de Dieu, qui met en lumière la vie et l'immortalité, en viennent à voir au-dessus de la bête, du diable, de la prostituée et du faux prophète, qui les avaient obscurcis eux et tout leur culte et leurs ordres. Et ils deviennent héritiers de l'Évangile, la puissance de Dieu qui était avant que la bête, la prostituée, le faux prophète et le diable fussent, et qui sera lorsqu'ils auront tous disparu et auront été jetés dans les temps de feu. Et ceux qui sont héritiers de cette puissance et de cet Évangile héritent de la puissance qui est l'autorité de cet ordre et de nos réunions. Ceux-là viennent à posséder l'ordre joyeux de l'Évangile joyeux, l'ordre consolant de l'Évangile consolant, l'ordre glorieux de l'Évangile glorieux, et l'ordre éternel de l'Évangile éternel, la puissance de Dieu qui durera pour toujours et survivra à tous les ordres du diable et à tout ce qui est des hommes ou par les hommes. Ceux-ci verront le gouvernement du Christ, à qui toute puissance dans le ciel et sur la terre a été donnée, et de l'accroissement de son gouvernement glorieux, juste, saint et équitable, il n'y a point de fin, mais son gouvernement et son ordre demeureront, car celui qui en est l'auteur est le premier et le dernier, le commencement et la fin, le fondement de Dieu, qui par-dessus tout demeure ferme, Christ Jésus l'amène. Étant retourné à Londres, je demeurai quelque temps, visitant les réunions des amis dans la ville et aux alentours. Pendant que j'étais à Londres, je fus un jour rendre visite à celui qu'on appelait l'écuyer Marsh, qui avait montré beaucoup de bonté envers moi et envers les amis. Il se trouva que j'y allais au moment où il dînait. À peine eut-il entendu mon nom qu'il me fit demander de monter, et il aurait voulu que je m'asseye avec lui à dîner, mais je n'avais pas liberté de le faire. Plusieurs grands personnages dînaient avec lui, et il dit à l'un d'eux, qui était un grand papiste, « Voici un Quake que vous n'avez pas encore vu. » Le papiste me demanda si je reconnaissais le baptême, christening des enfants. Je lui dis qu'il n'y avait pas d'écriture pour une telle pratique. « Quoi, dit-il, pas pour le baptême des enfants ?» Je dis, « Non. » Je lui dis, « Nous reconnaissons l'unique baptême, par l'unique esprit, en un seul corps. Mais jeter un peu d'eau au visage d'un enfant et dire que c'était le baptisé et le christen, il n'y a pas d'écriture pour cela. » Puis il me demanda si je reconnaissais la foi catholique. Je dis « oui », mais j'ajoutai que ni le pape ni les papistes ne sont dans la foi catholique, car la vraie foi agit par l'amour et purifie le cœur, et s'ils étaient dans cette foi qui donne la victoire, par laquelle ils peuvent avoir accès à Dieu, ils ne diraient pas au peuple qu'il y a un purgatoire après la mort. Ainsi, j'entrepris de prouver que ni le pape ni les papistes, qui soutiennent un purgatoire à venir, ne sont dans la vraie foi, car la vraie, précieuse foi divine, dont Christ est l'auteur, donne la victoire sur le diable et le péché qui avait séparé l'homme et la femme de Dieu. Et s'ils, les papistes, étaient dans la vraie foi, ils n'emploieraient jamais chevalets de torture, prisons et amendes pour persécuter et contraindre d'autres à leur religion, qui n'était pas de leur foi. Ce n'était pas la pratique des apôtres et des premiers chrétiens, qui rendaient témoignage à la vraie foi du Christ et en jouissaient, mais c'était la pratique des Juifs infidèles et des païens d'agir ainsi. Mais dis-je, puisque vous êtes un grand homme et un meneur parmi les papistes, et que vous avez été instruit et élevé sous le pape, et puisque vous dites, il n'y a de salut que dans votre église, je désire savoir de vous ce qui apporte le salut dans votre église. Il répondit, une bonne vie, et rien d'autre, dis-je. Si, dit-il, de bonnes œuvres. Et est-ce là, dis-je, ce qui apporte le salut dans votre église, une bonne vie et de bonnes œuvres? Est-ce votre doctrine et votre principe? Je dis, oui, dit-il. Alors, dis-je, ni vous, ni le pape, ni aucun des papistes ne savez ce qui apporte le salut. Il me demanda ce qui apportait le salut dans notre Église. Je lui dis, ce qui apportait le salut à l'Église au jour des apôtres, c'est la même chose qui nous apporte le salut, et non autre chose, à savoir la grâce de Dieu, qui, dit l'Écriture, apporte le salut et est apparue à tous les hommes, laquelle instruisait alors les saints, et nous instruit maintenant. Et cette grâce qui apporte le salut enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre pieusement, justement et sobrement. Ainsi ce ne sont pas les bonnes œuvres ni la bonne vie qui apportent le salut mais la grâce. Quoi, dit le papiste, cette grâce qui apporte le salut apparaît-elle à tous les hommes? Oui, dis-je. Alors, dit-il, je le nie. Je répondis, tous ceux qui le nient font des sectes, et ne sont pas dans la grâce et la vérité catholiques universelles, où étaient les apôtres. Puis il me parla de l'Église mère. Je lui dis que les diverses sectes de la chrétienté nous avaient accusés, et disaient que nous nous étions séparés de notre Église mère. Les papistes nous reprochaient d'avoir abandonné leur Église, disant « Rome est la seule Église mère ». Les épiscopaliens nous accusaient d'avoir quitté l'ancienne religion protestante, alléguant « La leur est l'Église mère réformée ». Les presbytériens et les indépendants nous blâmaient de les avoir quittés, chacun prétendant « La sienne est la véritable Église réformée ». Mais je dis, si nous pouvions reconnaître un lieu extérieur comme Église mère, nous reconnaîtrions Jérusalem, où l'Évangile fut d'abord prêché par Christ lui-même et les apôtres, où Christ souffrit, où eut lieu la grande conversion au christianisme par Pierre, où étaient les types, figures et ombres que Christ mit fin, et où Christ commanda à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de puissance d'en. Ainsi, si quelque lieu extérieur méritait d'être appelé mère, c'était le lieu de la première grande conversion au christianisme. Mais l'apôtre dit, Galates 4:25-26, « Jérusalem, qui est maintenant, est dans l'esclavage avec ses enfants, mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est la mère de nous tous. » Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cri, toi qui n'as pas de douleur, car la délaissée a beaucoup plus d'enfants que celle qui a un mari. » Verset 27. Maintenant, nous voyons que la Jérusalem d'en bas, qui était le lieu de culte le plus élevé, et tous ceux qui lui ressemblent, en profession sans possession, ont plus d'enfants que la femme libre, qui a un mari, laquelle est la Jérusalem d'en haut, la mère de nous tous qui sommes de vrais chrétiens. Ainsi, l'apôtre ne dit pas que la Jérusalem extérieure était la mère, bien que la première et grande conversion au christianisme eût eu lieu, et il y a encore moins de raison que le titre de mère soit donné à Rome, ou à quelque autre lieu ou ville extérieure, par les enfants de la Jérusalem d'en haut est libre, et ne sont pas enfants de Jérusalem, de la cité d'en haut est libre, ce qui donne le titre de mère soit à la Jérusalem extérieure, soit à Rome, soit à quelque autre lieu ou secte de personnes. Et bien que ce titre mère ait été donné à des lieux et à des sectes par des chrétiens dégénérés, nous disons pourtant encore, comme l'apôtre le disait autrefois, la Jérusalem d'en haut est la mère de nous tous, nous ne pouvons reconnaître aucune autre pour mère, ni la Jérusalem extérieure, ni Rome, ni aucune secte de personne, mais la Jérusalem d'en haut qui est libre, la mère de tous ceux qui sont nés de nouveau deviennent de vrais croyants dans la lumière, et sont greffés en Christ, la vigne céleste. Car tous ceux qui sont nés de nouveau de la semence immortelle, par la parole de Dieu qui vit et demeure à jamais, se nourrissent du lait de la parole, du sein de la vie, croissent par elle dans la vie, et ne peuvent reconnaître aucune autre pour mère que la Jérusalem d'en haut. On dit l'écuyer manche au papiste, vous ne connaissez pas cet homme. S'il venait seulement à l'église de temps en temps, ce serait un brave homme. Retour suivant.